Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. La Forêt des Possibles qui fait sa rentrée en ce mercredi 11 septembre. Après un bel été à se reposer, à se ressourcer, à se régénérer, l'équipe de la Forêt des Possibles est ravie de se retrouver en studio pour une nouvelle saison. Saison après saison, semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Claire Mailloux, accompagnée de Marin Moffret et Mathieu Cheminal.
Salut Claire.
Bonsoir, bonsoir.
Et aujourd'hui, nous recevons une structure qui est déjà passée au micro de Radio Galère il y a de ça quelques années, mais c'est une première pour notre invité du jour. Bienvenue Jeanne Ray.
Bonjour.
Alors Jeanne, aujourd'hui donc tu viens pour nous parler de la Réserve des Arts, une association qui est établie ici à Marseille. Mais avant d'aller dans le détail sur votre activité et ce que vous faites, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter toi, ton parcours, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu travailles à la Réserve des Arts?
Oui, eh bien moi je m'appelle Jeanne Ray, je travaille à la réserve depuis au moins 3 ans et demi et je suis arrivée sur ce secteur un peu des ressourceries après quelques pérégrinations. Moi j'étais un petit peu paumée après mon bac, j'ai grandi dans la banlieue parisienne et j'ai raté une hypocagne avant d'arriver en études d'histoire de l'art, voilà, et j'ai fait une licence à la Sorbonne d'histoire de l'art et au cours de ma 3e année de licence, j'avais beaucoup d'allers-retours à faire pour rallier Paris et rallier ma banlieue. Donc, compte tenu du nombre d'heures que j'avais de cours, j'ai décidé de faire un service civique dans une ressourcerie. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu ce monde-là. Je suis rentrée en service civique à La Petite Roquette, qui est une très grande ressourcerie parisienne. Je suis devenue mécanicienne dans leur atelier vélo participatif.
Ok, donc, tu as donc appris à réparer des vélos, c'était un de tes premiers métiers.
C'était mon premier métier. Avant j'avais un peu vendu des pizzas par hasard. Mais ils m'ont formée à cette mécanique, ils m'ont aussi formée un petit peu à tout l'univers du réemploi. Et je me suis dit en fait j'ai plutôt envie de faire ça plutôt que de poursuivre un master en histoire de l'art et de jeter un mémoire d'histoire de l'art sur la pile des mémoires très bien écrits par d'autres gens. Mais donc j'avais plutôt envie d'aller sur quelque chose de très concret, opérationnel. Et puis, je sais pas, les gens des ressourceries étaient trop cool, quoi. Ils arrivaient à déplacer des montagnes, à organiser des événements exceptionnels avec presque rien parce qu'ils avaient un réseau exceptionnel. Donc je me suis réorientée pour plutôt monter en compétence sur de la gestion de projet, sur tout un tas de trucs. Et j'ai poursuivi des études un peu de management derrière.
D'accord. Et juste pour nos auditeurs, auditrices qui ne savent pas ce qu'est une ressourcerie, est-ce que tu peux l'expliquer?
Les ressourceries sont des lieux où vous pouvez déposer des objets dont vous n'avez plus l'utilité. Les Emmaüs sont des ressourceries où, pour le coup, vous pouvez déposer tout un tas d'objets du quotidien, manufacturés, d'électroménagers, de vêtements, de vaisselle, de mobilier. Il y a aussi tout un tas de ressourceries de secteurs maintenant qui se sont créés. Le secteur du PTP, il y a des ressourceries sportives. Et nous, la Réserve des Arts, on est une ressourcerie culturelle, plutôt orientée culture.
Ok, merci pour cette petite clarification. Et donc, tu étais en train d'expliquer que tu avais pris la voie du management après cette expérience en ressourcerie. Est-ce que c'est ça qui t'a mené à la réserve des arts? Et quel a été le chemin jusqu'à
ce beau parcours du management? Oui, j'ai repris un master à Aix-en-Provence en management un peu général, un diplôme qui prenait des gens qui venaient d'un peu partout, notamment de l'histoire de l'art. Et en fait, ça m'a formé un peu aux techniques de base. C'était pas les meilleures années d'études, hein, d'un point de vue idéologique, mais je savais que ça me permettrait derrière d'apprendre un petit peu tout ce qui relève des techniques de gestion de projet, un peu financière, un peu de communication. Et j'avais senti dans mon service civique que les associations avaient aussi un peu besoin de profil un peu double compétence comme ça. Donc je suis rentrée en stage à la Réserve des Arts de Marseille en janvier 2021.
D'accord.
Voilà.
Ok, et donc là, ton rôle en tant que stagiaire à la Réserve des Arts, c'était déjà au côté management ou vraiment tout ce qui pouvait, là où on avait besoin de toi?
Non, bah oui, c'est plutôt ça. Ouais. moi, j'avais envoyé des candidatures spontanées dans toutes les ressourceries de la région, il n'y avait pas beaucoup à l'époque, pas beaucoup encore peut-être aujourd'hui, hélas. Mais Louisanne, qui dirigeait l'antenne de la Réserve des Arts à ce moment-là, m'a contactée et elle... C'était un moment d'émergence du projet, donc il y avait un peu un besoin de tout. Il y avait un besoin d'aller présenter le projet, d'aller clignoter, si tu veux, un peu partout, en expliquant, voilà, on lance le projet, on fait ça, est-ce qu'on travaille ensemble? Donc il y avait un peu ce truc-là d'aller pitcher un peu, d'aller présenter, d'aller rencontrer et tisser un peu un réseau, quoi. Après, mon poste a évolué pas mal au fil des années, parce que ça fait un moment, du coup, aujourd'hui. Et je suis un peu passée par plein de cases, d'accueil des adhérents, un peu de vider des camions, arranger des rayons, faire du tri, de la valorisation, enfin, tout un tas de choses qu'on va aborder plus tard. Mm-hmm. Mais ouais.
Ok. Et donc maintenant parlons de cette structure, la Réserve des Arts. Tu nous as déjà donné des premiers éléments, une ressourcerie culturelle. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter, pitcher la Réserve des Arts comme tu sais si bien le faire?
La Réserve, ouais. La Réserve des Arts, c'est une structure, c'est une association du coup, loi 1901, qui est née en 2008 en région parisienne à l'initiative des deux fondatrices qui travaillaient beaucoup dans le milieu de l'art, de l'écologie, qui faisaient beaucoup de tables rondes, un peu de recherche, et qui ont fait ce constat que, d'un côté, il y a toutes les entreprises et les institutions culturelles qui génèrent, en fait, qui ont besoin de matériaux pour leurs événements, pour leurs projets. Ces structures-là, elles ont besoin d'exutoires derrière au niveau des matériaux. C'est souvent des matériaux de très grande qualité, parce que, de fait, l'esthétisme fait que c'est très beau, quoi. Et de l'autre côté, il y avait en fait tous les artistes individuels, les étudiants en art, en architecture, les petites compagnies, tout un tas de petites personnes individuelles qui étaient déjà en 2008 des publics un peu plus précaires. Ça n'a pas changé vraiment aujourd'hui. Et donc, il y avait besoin d'accéder à des matériaux de qualité à bas coût. Et elles ont décidé un peu de faire ce pont-là. Ils l'ont décidé en s'inspirant d'un concept, ce concept-là existait déjà à New York, puisqu'elles sont inspirées d'un truc qui s'appelle Material for the Arts, qui est né à New York dans les années 70 ou 80, à l'initiative des artistes comme ça qui existent encore aujourd'hui. Et donc, elles ont commencé à essayer, avec leur réseau, de tisser un peu ce lien. Et je pense que le premier projet était un peu à la rage, un peu pirate. On raconte qu'il y avait une cave dans le palais de Tokyo qui leur a été mise à disposition, où elles ont un peu stocké des matériaux. Et ça a bien marché. Et en fait, après, elles ont ouvert une petite boutique dans le 14e arrondissement, qui existe encore aujourd'hui, qui est un peu le premier point de vente. Mmh. Et en fait, voilà, depuis 15 ans, il y a eu un grand développement. Aujourd'hui, ils viennent de quitter un très grand entrepôt qu'ils avaient à Pantin pour emménager dans leur nouvel entrepôt de Montreuil. Voilà. Okay. Ils sont en plein déménagement. Enfin, ils sont en train d'aménager à l'heure où je parle. Enfin, peut-être pas, j'espère qu'ils sont rentrés chez eux.
Quelque chose qui doit faire écho au vécu de la Réserve des Arts à Marseille, mais on va en reparler.
Bien sûr.
Je fais pas de bon
Bien
enfant.
Sûr. Et donc, il y a un moment où ils se sont posés en fait, sur les développements un peu de l'association. Ils ont fêté leurs 10 ans et ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et un des projets de développement était de venir essaimer en région sud, notamment parce que Louisanne, qui est déjà venue dans cette émission, travaillait à l'époque à la réserve de Pantin et souhaitait revenir un peu sur ses terres natales. Et elle a dit, moi, je vais ouvrir une antenne en région sud. Et donc, aujourd'hui, l'antenne est née. Et l'antenne, je sais pas, elle rentre en CP, là. Aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on existe. et voilà. Et nous, on travaille à 5 sur l'antenne Méditerranée. Et à Paris, ils sont moins 25. On est okay. Voilà.
Okay. À Paris, il y a juste un seul point qui est Pantin. Et celle de, enfin, on a un deuxième avec la boutique du 14e, c'est ça ?
Toutes les fonctions support de l'association et le gros du volume traité aussi par la Réserve des Arts, c'est sur cet entrepôt qui aujourd'hui est entre Pantin et Montreuil. Après, c'est un point de vente qu'il y a dans le 14e où il y a du réassort qui est fait. La boutique du 14e, c'est un peu l'écrin, quoi. Il y a tous les très beaux matériaux.
La vitrine. Voilà. Mm-hmm. Ok. Et donc, tu nous as expliqué que Louisanne était originaire du sud, donc c'est pour ça que qu'elle a cherché à redescendre, à implanter la Réserve des Arts ici. Mais ça aurait pu être une autre ville dans le sud. Pourquoi avoir choisi Marseille ? Est-ce qu'il y a des spécificités ? Est-ce qu'il y a un terrain fertile ? Qu'est-ce qui fait que la Réserve des Arts a choisi de s'implanter ici ?
Oui, il y avait un terrain fertile. Je pense qu'elle a mené toute une étude un peu sur la manière dont ça pouvait être faisable ici. Marseille et la région sud, c'est quand même une terre de festivals. Il y a beaucoup d'événementiels. Artistiquement, c'était déjà en plein essor il y a 4 ans. Et en fait, voilà, le cinéma, il y a beaucoup de studios de tournage. Enfin, ça avait du sens. Et en fait, on s'est aussi rendu compte que la plupart de nos adhérents, si on regardait au national les adhérents, les adhérents de province, entre guillemets, enfin les adhérents qui n'étaient pas à Paris, la plupart étaient à Marseille. D'accord. Donc ça avait aussi du sens de venir ouvrir ici parce qu'on avait déjà des adhérents sur place. Du coup, donc elle a un peu lancé ce projet pour ça, quoi.
Et j'imagine que Marseille, capitale de la culture, en 2013, a dû aussi avoir... Bah, de toute façon, ça a fait un tremplin pour tout le secteur culturel ici à Marseille. Donc, de facto, ça a aussi permis de dynamiser toute cette industrie. Tu as notamment parlé du cinéma. Il me semble que la région sud investit énormément pour les studios, les productions. Donc, tout ça, c'est un vivier de clients et d'activités pour vous.
Ouais, l'ouverture était légitime. Il y a énormément d'artistes, il y a énormément aussi d'écoles, d'étudiants. Et était évident, enfin, en plus de ça, sur le territoire, il n'y avait aucune solution de ressourcerie, de traitement des déchets culturels, parce qu'on n'est pas encore rentré dans le détail de ce qu'on fait, mais quand même, voilà, il n'y avait pas d'exutoire sur place qui était présent, donc ça avait plutôt du sens.
Et ben rentrons justement dans le détail de ce que vous faites, et justement, on peut même faire une transition parfaite entre le cinéma et ce qu'on peut trouver à la Réserve des Arts. On a beaucoup parlé de vous comme étant la structure qui récupérait le tapis rouge du Festival de Cannes. Donc, je sais, peut-être par toi d'ailleurs, que la moquette du Festival de Cannes est changée tous les jours et que vous recevez des mètres carrés de tapis rouge, mais aussi, en fait, dans le secteur événementiel, le business de la moquette, c'est des quantités astronomiques. Donc, beaucoup de moquettes à la Réserve des Arts, mais qu'est-ce qu'on peut y trouver d'autre ?
C'est notre produit phare, effectivement.
C'est affligeant, d'ailleurs.
Ouais. Après, on a vendu déjà tout le tapis de cette année, donc ça commence à prendre. Mais qu'est-ce qu'on récupère ? Énormément de choses. Qu'est-ce que vous pouvez trouver chez nous ? Essentiellement, ce que vous ne cherchez pas, je dirais, parce que c'est vraiment la base du réemploi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose du réemploi. On ne sait pas vraiment ce qui va arriver en Orient. Nous, on récupère tout ce qui... peut servir à la création, ça veut tout et rien dire. On travaille avec une dizaine de typologies à peu près, du bois, du textile, du cuir, de la fourrure, du plastique, du papier, pas mal d'éléments de décor aussi, donc des châssis, des feuilles décor qui sont utilisées pour les tournages. Qu'est-ce qu'on a ? On a des choses inclassables, des décors de vitrine, une chouette géante, enfin, des choses hyper bizarres, voilà, de la quincaille, énormément de choses.
Et qu'est-ce qui est le plus... Ah, vas-y, excuse-moi, Mathieu.
Non, pas de souci. Moi, je me posais la question, par exemple, la moquette du Festival de Cannes, on vous paye pour la récupérer ?
Ouais.
Ouais.
Tout à fait.
Vous êtes rémunéré pour récupérer le matériel usagé, quoi.
Ouais, en fait, on est un peu un opérateur de gestion de déchets, même si le mot déchet ne s'applique pas trop parce qu'en fait on va au-delà du déchet, on est un opérateur de gestion des flux, une belle phrase qui ne veut rien dire, mais en fait les entreprises qui font des événements ou les musées, les théâtres en tant qu'entreprise sont tenues d'assurer la gestion de leurs déchets à la fin de vie de leur création et en fait il y a longtemps ou même peut-être encore aujourd'hui, la question se posait pas, tout était brûlé ou enfoui, je sais pas où. Après, il y a aussi la valorisation énergétique, il y a tout un tas de choses, le recyclage, voilà, qui est le truc à la mode, très très cool. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va un peu avant ça, nous on touche pas la matière, on va pas la modifier, on va la revaloriser, on va la nettoyer, on va faire en sorte qu'elle soit propre à la consommation à nouveau. Et donc ça, c'est une prestation qu'on fait payer, effectivement. On est leur prestataire, en fait. Ils nous appellent, et plutôt que de faire appel à une benne ou une déchette, ils disent on va travailler avec la Réserve des Arts. Et c'est le parti pris du Festival de Cannes depuis plusieurs années.
Et donc après, vous valorisez donc ces déchets et vous les revendez, voire vous les louez à d'autres entreprises, à l'événement.
Les deux, ouais, ouais. Okay. Nous, on emploie des gens qui vont passer du temps à revaloriser la matière. Okay. Donc, c'est sur Moquette de Cannes, on reçoit tout sur des palettes, c'est pas hyper clean et tout ça. C'est tout plié. Nous, on va prendre chaque bout, on embauche des gens qui vont prendre chaque bout, qui vont redécouper, standardiser, retirer les cheveux des gens connus, les mégots de cigarettes, tout un tas de trucs, et passer un coup d'aspirateur sur chaque bout du tapis rouge de Cannes, qui est en réalité une moquette événementielle de base,
oui,
quoi, hyper fine, hyper, c'est pas du tout un velours très sexy, quoi. Et en fait, ce temps-là, c'est du temps humain qui est facturé. Donc en fait, quand faire appel à nous, c'est une démarche cool de manière environnementale, enfin, d'un point de vue environnemental, ça, comment dire, l'impact environnemental d'une opération comme celle-ci est positif. Mais ça crée aussi de l'emploi social, de l'emploi local. C'est pas délocalisable, on emploie des gens qui sont là. En fait, voilà.
Est-ce que tu sais et ou as le droit de nous dire qui a récupéré la moquette du tapis rouge ?
Plein de gens.
Okay. Il y en a tellement.
Ouais. Énormément de gens. Essentiellement des mini-structures. En fait, ça fait 2 ans qu'on communique vraiment sur le fait qu'on récupère cette moquette. Et c'est des écoles primaires qui en fait organisent un défilé de fin d'année et qui disent oh là là trop bien on va faire notre défilé là-dessus, donc ça peut être voilà, ça peut être récupéré directement pour de l'événementiel. Il y a des gens qui vont fabriquer, on a eu des artistes résidents qui fabriquaient des objets, qui ont développé toute une gamme d'objets, de chaussons, de sacs, de bobs faits à partir de la moquette, qui se coûte très bien en fait à la machine.
De l'upcycling.
Complètement upcycling.
Transformer la matière pour en créer quelque chose d'autre.
Ouais. Voilà, la gamme tapis rouge des Nippon, si vous voulez aller voir. Et on a eu des gens qui fabriquaient des kimonos, des vêtements. Enfin, voilà. Mais c'est très dur de savoir vraiment ce que les gens vont faire. Nous, on leur vend la matière à un tarif, je pense que c'est 33 centimes du mètre carré le prix auquel on vend.
Ok.
Et en fait, derrière, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font, sauf s'ils nous indiquent et qu'ils nous envoient des photos derrière.
Mmh. Ouais, qu'ils décident de communiquer avec vous. Et j'imagine que vos clients sont aussi, sont avant tout des adhérents.
Des adhérents, oui.
Ouais, voilà, je parle de clients, mais toi, tu parles plutôt d'adhérents. Oui. Donc, ils reviennent et vous avez un lien aussi avec eux. Il y a un peu ce côté communautaire, j'imagine.
Bah oui, complètement. Donc en fait, nous, on collecte les matériaux auprès des grandes entreprises. On a pas mal d'interlocuteurs sur le spectre un peu culturel. On travaille un peu avec les grands dont on n'a pas le droit de dire le nom. On fait les gros événements, on fait des démontages de Fashion Week, on récupère des stocks dormants, de cuir, de textile, certaines choses. Il y a aussi tout un enjeu un peu de confidentialité sur les marques. Derrière, on fait la valorisation et nous, après, les gens adhèrent à l'association et peuvent venir se fournir sur des tarifs solidaires. C'est aussi l'intérêt, c'est que les gens payent une adhésion, ça leur coûte 13 euros à l'année. Et après, nous, on s'engage à vendre les matériaux autour de un tiers du prix du neuf.
D'accord.
Donc c'est un avantage pour eux, c'est un moyen de venir soutenir les créateurs, les étudiants. Mm-hmm. Et oui, donc il y a toute cette communauté de gens qui viennent et qui reviennent.
Et vous avez combien d'adhérents ?
Au national, on en a 13 000. Oui. Je pense qu'ici, sur le territoire, on est plutôt autour de 1 000. On est un bébé projet par rapport à la Réserve des Arts qui existe depuis 2008. Eux, ils traitent des volumes vraiment... Enfin, c'est des grands, quoi.
Moi, je me demandais aussi quels étaient les matériaux, les objets les plus prisés. C'est-à-dire, si tu as ça en stock, tu sais que dans la journée, c'est parti.
Mine de rien, c'est quand même des choses qui restent un peu standards. Tout ce qui est rouleau textile, ça part super bien. Tout ce qui est bois aussi, des panneaux de bois, de contreplaqué, des matériaux qui sont un peu beaux, qui sont un peu standardisés, ça va partir très vite. Si j'ai, un socle en forme de volcan, comme c'est le cas en ce moment, je le vois pas partir tout de suite, quoi. Enfin, ça dépend. Mais c'est aussi un peu le parti pris de l'association de dire on travaille avec des artistes parce que il appartient aux artistes de voir un volcan et de dire ah mais c'est ça que je voulais pour mon œuvre et ok. Alors en fait.
Oui, ou comme tu disais tout à l'heure, tu sais pas ce que tu vas trouver, tu y vas sans attente et c'est, ça peut être aussi, ça peut faire partie de la démarche créative de partir de la contrainte, de partir de ce qu'on trouve sur place pour pouvoir créer et ouais, c'est ça aussi le terrain de jeu d'expérimenter avec ce qu'on a à disposition et tout ce qu'on peut en faire.
Bah c'est complètement même au-delà du terrain de jeu, c'est le plaidoyer un peu de l'association. De se dire en fait il y a une créativité qui peut émerger de la contrainte et de toute manière on doit se responsabiliser sur la manière dont on consomme dans tout dans la vie et la créativité, la création n'y échappe pas et en fait c'est beau de concevoir une idée, d'avoir une idée et de derrière la transmettre, la transcrire en matériaux. En fait, il faut peut-être changer un peu de paradigme, mais nous, ce qu'on propose. Et en fait, c'est là où c'est malheureux, c'est que c'est les choses les plus standards qui tournent le plus dans nos stocks, alors qu'en fait, il faudrait que les artistes, avant toute chose, viennent chez nous en disant c'est ça qu'on a sur le territoire et du coup c'est à partir de ça qu'on va concevoir l'idée.
Mmh. Ouais, c'est ça, partir de la contrainte.
Mais
ouais.
C'est une contrainte, du coup, ouais. Ça marche pas pour tous les artistes.
Et du coup, avant, vous étiez dans un autre local. Enfin, pour avoir visité la Réserve des Arts à deux reprises depuis que vous avez déménagé dans vos nouveaux locaux. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ce déménagement et surtout, quel est ce nouvel endroit où vous êtes installé?
Oui, bien sûr. Louisanne, en lançant l'antenne, a commencé à chercher des locaux parce que les matériaux, ça prend beaucoup de place. Donc, il faut un espace. C'est un projet. Quand on lance, il faut avoir de l'espace autour de soi. Elle a répondu à un appel à projet qui s'appelle le MOVE, qui appartient à Euroméditerranée, qui en fait, dans sa démarche de réaménagement des quartiers 14e, 15e, en fait, dispose de friches un peu industrielles qu'ils souhaitent mettre à disposition à des artistes, à des structures émergentes du territoire. On a été sélectionnés comme ça et on a pu disposer de notre ancien espace qui s'appelait la Grande Halle pendant 3 ans et demi. Et en fait, ça nous a permis de nous lancer en fait, parce que sur des structures qui se lancent comme ça, sur des projets un peu où tu as besoin de beaucoup, beaucoup de foncier. T'es obligé un peu de passer sur des accords de mise à disposition, de bail un peu précaire, où en fait le loyer est assez peu élevé, mais on peut pas se lancer autrement le temps de lancer l'activité. Même aujourd'hui, on est encore sur ce genre de régime. Et donc, tout simplement, le local où nous étions devait être démoli pour les projets d'aménagement. Et donc, on a poursuivi avec Euroméditerranée qui nous a relogés sur ce nouvel espace qu'on appelle la Casanova, qui n'est pas très loin de l'ancien et qui est un peu sur le même régime, quoi. On va rester quelques mois, quelques années là-bas.
Donc vous savez d'ores et déjà que tôt ou tard, il vous faudra déménager. Et j'imagine qu'un déménagement, ça vient avec son lot de challenges.
Ouais, on peut dire des challenges, ça peut être des limbagos, ça peut être un mot plus haut que l'autre, où en fait on n'en peut plus de se voir après avoir déchargé 10, 15, 20, 30 camions. Oui, effectivement, le déménagement c'est un peu compliqué, après on s'était un peu préparé mentalement, là voilà, la perspective du nouveau déménagement d'ici quelques années, on n'y pense pas trop. Ouais. Le foncier, de toute manière, c'est vraiment un enjeu pour les associations, pour les ressourceries. Enfin, l'accès au foncier et tout ça, donc c'est quelque chose de récurrent. Enfin, à Marseille, en plus, on n'est vraiment pas les seuls à chercher un espace un peu pérenne. Donc oui, on s'y prépare.
Et donc ce nouvel espace que vous avez appelé la Casanova, il me semble que vous l'avez imaginé comme un lieu plutôt hybride, même comme un tiers-lieu.
Oui, le mot est dit. Oui,
le
oui.
mot est dit et balancé. C'est un tiers-lieu. Est-ce que, quel est le positionnement de ce tiers-lieu? Qui sont vos colocataires? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y fait?
La Casanova, située du coup boulevard Casanova, d'où son nom. Et puis c'était vraiment notre nouvelle maison. On s'est dit, waouh, Allons-y là-dessus. C'est un lieu qu'on occupe avec plusieurs acteurs, d'autres acteurs qui sont aussi dans le move avec Romet, d'autres gens qu'on a croisés sur notre route avec lesquels on travaille et qu'on aime beaucoup.
Qui sont
aujourd'hui, il y a Tout en vélo, qui est une SCOP.
Qu'on a reçu il y a quelques mois. Ouais.
Que vous pouvez voir arpenter les rues de Marseille avec leur remorque à vélo, donc voilà, qui font la logistique à vélo. On a le Bricobus des Compagnons Bâtisseurs.
D'accord, qu'on n'a pas reçu.
Les Compagnons, c'est une association qui est super ancienne, qui accompagne un peu les gens dans les quartiers pour améliorer un peu leurs conditions de vie. Et ils ont des bus ateliers, donc c'est pas des bus, des camions ateliers. Okay. Donc ils ont un gros camion qui est un atelier roulant qui, de la même manière, se balade un peu dans les rues pour essayer de former les gens à la petite réparation, à l'amélioration. Du coup, qui est avec nous et avec lesquels on construit des projets aussi de sensibilisation. Qui se source chez nous en matériaux de réemploi,
forcément.
Évidemment. Après, on a un organisme qui s'appelle le Garage, qui est plutôt la réunion de 3 designers scénographes avec lesquels on a plutôt travaillé d'un point de vue éco-conception. Okay. Voilà, des gens qui étaient venus un peu en résidence chez nous, qui gravitaient autour de l'antenne. Et qui, eux, en fait, sont des cadors de la conception d'objets sublissimes à partir de matériaux flingués, quoi. Donc ils vont plutôt aller sourcer chez nous les matériaux qui traînent depuis très longtemps. Ils vont appliquer des techniques pour les rendre superbes et en fait voilà, donc ils vont développer un peu du mobilier, un peu de la scénographie, enfin, et donc on travaille avec, c'est un peu la vitrine de ce qu'on peut faire de très très beau avec des matériaux de réemploi. Et il y a également We Take Care, qui est une association qui lutte en milieu festif, qui fait de la prévention et de la sensibilisation au risque de violences sexistes et sexuelles et liées aux prises de consommation. Voilà, qui a ses bureaux chez nous. Et voilà.
On voit que c'est tout un écosystème qui gravite autour des sujets de construction, des scénographies, de culture, de fêtes. C'est un écosystème très dynamique. Et on va bientôt prendre la pause musicale, mais après j'aimerais bien que tu me racontes comment ça s'est passé l'inauguration de la Casanova en juin dernier, parce que j'ai eu la chance d'y assister. J'ai passé une super soirée festive, qui plus est. Mais alors, pour amorcer cette pause musicale, est-ce que tu peux nous présenter le titre que tu as choisi?
Oui, un titre tiré par les cheveux vis-à-vis de son rapport à la réserve des arts. C'est une chanson de Grease, du film Grease, qui s'appelle « There are worst things I could do ». Donc il y a des pires choses que je pourrais faire pire que ça. Qui est une chanson que j'adore, qui passe très peu à la radio et qui, je voudrais qu'on l'aborde un peu comme la posture de certains partenaires, la posture de certaines personnes qu'on rencontre dans notre travail, qu'on essaie de convaincre de faire appel à nous, de passer au réemploi, d'éco-concevoir. Et c'est un peu un appel aux grands groupes, aux gros pollueurs, de dire vous pensez que vous pourriez faire pire, mais en fait, vous faites déjà pire.
Et surtout, vous pourriez faire mieux.
Et voilà, c'est un peu ça. Écoutez la chanson de Rizzo.
C'est parti. There are worse things I could do than go with a boy or two. Even though the neighborhood thinks I'm trashy and no good, I suppose it could be true. But there are worse things I could do. I could flirt with all the guys, smile at them. I could Vous êtes toujours sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles et vous venez d'écouter la chanson de Grease, There is Worse Things I Could Do. Le titre choisi par Jeanne Ray, qui ce soir nous parle de la Réserve des Arts, cette ressourcerie culturelle implantée à Marseille depuis 4 ans, c'est ça? Et dans une première partie, Jeanne nous a présenté son parcours, toujours dans la ressourcerie d'ailleurs, et comment elle s'est implantée sur Marseille avec ce projet. Nous avons aussi parlé de ce nouvel espace qui s'appelle la Casanova, qui se positionne comme un tiers-lieu avec d'autres associations qui gravitent autour de la culture et de la construction de la scénographie. Et cet espace a été inauguré en juin dernier avec le procès de la culture. La question était, faut-il sauver la culture ?
Eh oui, c'est un format un peu inédit pour nous. À ce moment-là, on voulait faire un peu un gros coup, un bel événement, inviter tous nos partenaires, inviter tout notre écosystème, célébrer un peu ce déménagement, se remercier et aussi faire un peu le bilan de nos 3-4 premières années d'existence et engager les partenaires sur la suite. Donc il y avait un peu un triple enjeu là-dessus et on voulait pas non plus faire un événement un peu prise de parole qui s'enchaîne, un peu relou quoi. Donc en fait on a essayé de détourner un peu le format et on s'est un peu inspiré d'un truc qui s'appelle Tribunal des Générations Futures, qui est un format hyper chouette lancé par Ouzbek Erika, qui est vraiment ce truc-là de faire un jugement un peu... poser une question un peu absurde. Voilà, on n'avait pas vraiment les moyens de faire un Ouzbek Erika, donc on l'a fait chez nous, quoi, avec nos petites mains. Et donc l'idée, c'était de partir sur un format un peu carnavalesque, un peu procès de carnaval sur la culture. Je dis, en fait, la culture, de toute manière, visiblement, elle faillit à sa mission. Elle est incapable de tenir les défis qui nous attendent d'un point de vue d'imaginaire, d'un point de vue de conception, de pollution, d'accessibilité, d'inclusion et tout ça. Donc en fait, finalement, la culture, supprimons-la en fait. Donc c'était un parti pris comme ça, pas très nuancé volontairement. Et donc on a préparé un peu tout ce format-là. On a écrit une pièce de théâtre en fait, vulgairement. Et en fait, on a fait appel à des acteurs, à des actrices pour incarner un petit peu les grands personnages de ce procès. La culture était incarnée par notre responsable d'antenne, puisque c'était un personnage muet, donc il était juste caché derrière un masque debout en plein cagnard pendant le procès.
Il était attaché, c'est bien ça.
Ouais. Et en fait, on avait aussi une grande inquisitrice qui, elle, était un peu la figure du personnage autoritaire qui n'écoute rien ni personne, qui veut un peu du sang, qui veut... Voilà. Et les gens qui étaient invités au cours du procès, le public, en fait, était un peu dans la posture d'une foule populaire qui vient juger la culture, quoi. Vraiment, la scène de Quasimodo, du jugement de Quasimodo, vous voyez, c'était un peu l'inspiration. Donc voilà, donc il y avait un peu ce procès-là. Donc il y avait tout un tas de chefs d'accusation qui étaient exposés par cette grande inquisitrice. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans tout le plaidoyer qu'on a écrit, on a impliqué des partenaires, donc des gens avec lesquels on travaille sur le territoire. Et on leur a dit, en fait, toi, on aimerait bien que tu contre-argumentes sur ce chef d'accusation. On les a coachés, on a fait en sorte en fait que leur prise de parole soit bien cadrée, qu'ils aient le temps de présenter leur association et que ça rentre aussi dans le jeu du théâtre.
Ils ont vraiment incarné, ils ont joué le jeu et c'était pas juste des prises de parole. Je sais pas dans quelle mesure c'était de l'impro ou pas, ces prises de parole des partenaires, mais ils ont vraiment eu leur rôle et ils l'ont vécu pleinement. Enfin, ils l'ont vraiment incarné, c'était génial.
Ouais, l'idée c'était de plonger un peu le public dans cette espèce de truc très carnavalesque, un peu manichéen. La culture c'est méchant, c'est mal, on la supprime, on la tue. Et en fait d'avoir des gens dans le public qui sont un peu des complices, qui vont venir prendre le micro et dire attendez, en fait je suis pas du tout d'accord, vous dites que la culture elle est pas inclusive alors qu'en fait nous avec telle association sur Marseille on fait ça et c'est très bien. Donc c'était un peu une manière de renverser petit à petit l'issue du procès et de mettre un peu en valeur aussi des projets avec lesquels on travaille, qu'on adore, et de montrer aussi que finalement, même si la culture, elle est critiquable à plein d'endroits, il y a déjà des choses qui sont en train de se faire. Il y a déjà des gens qui travaillent à bouger les lignes, en fait. C'était un peu ça, ce format-là. Et donc il y avait un espèce de bourreau caché, il y avait des petits diablotins qui se baladaient dans le public et tout ça. Et en fait, c'est toute cette inauguration, c'est une espèce de belle histoire un peu partenariale qu'on n'a pas complètement contrôlée, mais on a pu travailler avec l'école Courtrage-Mé, qui en fait, leurs étudiants cherchaient un peu des stages, du coup ils ont fait la captation, la prise de vue, donc on a en fait des super images de cet événement-là. Derrière, on a aussi un chantier d'insertion de lieux publics qui nous a appelés parce qu'ils cherchaient un chantier, donc ils nous ont aidés à construire toute la scénographie, qui est en fait purement un échafaud, voilà, donc ils ont construit tout ça, enfin, voilà, il y a un peu un truc très très joli qui s'est lié autour de ce truc-là, et donc la culture, voilà, est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle n'est pas coupable, en fait, l'issue du truc, c'était un peu de se dire, la culture, évidemment, on ne va pas la supprimer, on ne peut pas la supprimer, évidemment, la culture, elle est là, elle est partout, c'est pas un truc qu'on peut supprimer, par contre, la culture telle qu'on la connaît, en fait, on l'a un peu sauvée, ce coup-là, mais elle s'engage un peu à se bouger, quoi, et à prendre un peu des mesures, des travaux d'intérêt général, limite, quoi. C'était un peu la conclusion de ce truc.
Mmh. On attend la culture au tournant, et il faut qu'elle fasse ses preuves et qu'elle fasse des efforts, en fait. On veut voir ses efforts, et notamment, ça passe par la réduction de déchets, ou en tout cas, une prise de conscience de l'impact écologique qu'elle peut avoir, que ce soit en termes de génération de déchets, mais aussi, je pense, à l'empreinte carbone de toute cette industrie, avec les trajets, les transports, c'est vraiment le gros pôle émetteur, ouais.
Il y a un côté vraiment très matériaux, empreinte carbone, évidemment, sur, en fait, je conçois mon expo avec des matériaux neufs qui, en fait, ont une empreinte carbone désastreuse, qui viennent de très, très loin pour un quart d'heure de défilé de mode. Voilà. Il y a ce genre de choses de manière très, très pratique. Et après, il y a aussi tout ce rôle que pourrait avoir la culture de chef de file dans la réinvention de nouveaux imaginaires, en fait. C'est, en fait, c'est un peu tout ce truc-là du shift project qui dit, en fait, si on veut essayer d'atteindre ces futurs souhaitables, il faut qu'on nous les vende, il faut qu'on nous les montre à quoi ça pourrait ressembler un futur où on ne prend pas l'avion, un futur où, en fait, on conçoit des expos sur place avec que des matériaux qu'on a. Et, en fait, aujourd'hui, c'est impalpable. Je veux dire, tout comme la culture nous transmet tout un héritage oppressif ou patriarcal, enfin, c'est la même manière. La culture peut aussi faire ce chef de file de créer des images. Mmh. Et donc... allons-y, quoi.
On parle très souvent de l'impact du cinéma, des séries, avec tout ce qui est véhiculé en termes de clichés, de stéréotypes, et du fait que les représentations d'héros qui incarnent la transition écologique sont en train d'émerger, en fait. Il nous faut de plus en plus de représentations pour pouvoir s'identifier et rendre cela désirable et enviable.
C'est ça.
J'en profite parce qu'on est dans une émission qui s'appelle La Forêt des Possibles et qui est associée à une plateforme qui s'appelle L'Arbre des Imaginaires, qui est une sorte de gigantesque arbre à palabres de transition écologique et dont les fleurs de cet arbre qui se trouvent sur Internet sont tout un tas d'œuvres d'art qui peuvent nous inspirer et qui sont justement de diverses formes. Donc tu es dans la bonne émission pour parler de ces questions.
My God.
Oui. Moi, je voulais te demander de façon un peu plus méta et globale, quels sont les enjeux que doivent surmonter les acteurs culturels aujourd'hui. On a parlé des impacts écologiques, mais sur le plan social, de toute façon, quand on parle justement des imaginaires et les messages qui sont véhiculés au travers des œuvres, là, c'est un impact plus social, justement. De l'intérieur, quels sont un peu les challenges de la culture aujourd'hui? Vaste question, je te facilite pas la tâche.
Économique, déjà.
Il y a énormément de choses, ça n'a pas de fin. D'un point de vue, nous, là où on travaille vraiment, c'est d'un point de vue très pratique sur réduire un peu les implications de matériaux, réduire un peu la voilure sur la fast consommation qu'il peut y avoir dans la culture, évidemment. Tous les enjeux sont autour d'essayer de développer des modèles plus vertueux, des modèles de mutualisation, des modèles de location, des modèles de mettre en place cette boucle dont on parle en permanence, cette économie circulaire. Allons-y, en fait, levons tous les freins. C'est très facile de dire ça, je le sais, mais voilà, en fait, il faut faire des petites boucles. Il faut alimenter l'économie comme ça. Donc il y a vraiment tout un enjeu de se connecter les uns aux autres pour pour réduire un peu tout l'impact carbone. Il y a tout un tas de trucs qui sont très techniques, il faut développer la traçabilité, il faut faire en sorte qu'on puisse savoir vraiment d'où viennent les choses, comment on les traite. Il y a une vraie transformation et sensibilisation des gens qui sont décisionnaires dans la culture. Mmh. C'est vraiment, je pense, un truc très important. C'est qu'en fait, dans le questionnaire, tu me demandais quels étaient les alliés. Nos alliés, ce sont les décisionnaires qui font le bon choix. En fait, nous, on peut aller travailler avec n'importe qui, présenter notre projet à n'importe qui. Les belles histoires qu'on raconte et les impacts les plus marquants sont quand il y a une personne qui a compris la démarche. Et en fait, il faut sensibiliser les gros pollueurs, les institutions, ces personnes-là qui doivent en fait faire face au fait qu'ils ont des responsabilités quant à la gestion des choses qu'ils génèrent, ouais. En fait. Comme partout, hein. C'est vraiment pas...
Ceux qui ont le pouvoir, voilà. Le pouvoir et le pouvoir décisionnaire.
C'est ça. En fait, on se heurte vraiment souvent à des gens qui disent bah, « En fait, c'est un peu plus cher, on comprend pas, j'ai une solution qui est moins chère, de recyclage, de machin. » En fait, juste, c'est un petit côté être du bon côté de l'histoire. Donc en fait, les décisionnaires, les gens de pouvoir, les gens qui prennent les décisions dans les grandes institutions, les grandes entreprises, doivent se sensibiliser à ça. Mmh. Je pense que c'est vraiment ça le challenge. Après, il y a tout un tas de trucs d'inclusion, de machins qui sont moins du ressort de la réserve, même si on essaye.
Ouais. Et justement, là, pour poursuivre sur les sujets d'économie circulaire, on dit souvent, en parlant de ce sujet, que les déchets de l'un sont les ressources des autres. Mais on dit aussi que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas.
Bah oui.
Est-ce qu'il est possible de faire de l'art, de la culture en zéro déchet? Quels seraient les leviers d'action? Tu as parlé notamment de mutualisation, de location. Est-ce que tu aurais des exemples concrets que tu as pu voir sur ces verticales-là?
Je pense que le zéro déchet, ça n'existe pas. Je pense que tous les choix qu'on peut faire ont un impact. Donc je ne vais pas dire que c'est possible, je suis désolée. Par contre, oui, c'est possible de réduire au maximum son impact. Et ça peut passer. Enfin, il y a énormément de leviers et de décisions qu'on peut prendre pour réduire son impact. Ça peut passer par de la mutualisation et ça peut aussi passer par de la standardisation. Mais là encore, on est autour de cette histoire de contraintes, créativité. Voilà. Est-ce qu'on contraint l'esprit? Est-ce que la contrainte ne va pas contraindre la créativité? C'est compliqué. Mm-hmm. Mais standardiser, typiquement, sur tout le mobilier muséal, en fait. Standardiser du mobilier muséal qui, derrière, en fait, verra, pourra accueillir tout un tas de supports, de contenus. Ça pourrait être envisageable, en fait. Mm-hmm. D'avoir un standard de châssis, de simèse, en fait, qui est... voilà.
Qui garantirait l'espace spectateur, spectatrice, voilà, de la même façon. Ouais.
Par exemple, ouais, y a tout un tas de leviers. Après, le réemploi, la gestion de fin de vie, pourrait être des conditions sine qua non de n'importe quelle production d'exposition ou de festival. Voilà. Après, nous, récemment, on a collaboré, on a fait le démontage d'une exposition et on a assuré la valorisation d'une exposition qui s'appelle Albert Camus et la pensée de midi, qui est typiquement un exemple de beau projet qui se passe bien. Donc c'est une exposition qui a tourné pendant 3 ans, qui a été la même, qui a été conçue et produite localement, qui a fait Nice, Toulon, Marseille, Aix, voilà, sur les mêmes simèses qui ont été réadaptées. C'est possible en tout cas, voilà. Et l'impact environnemental est positif, l'impact social également, ouais. Et ça fait partager l'expo à plus de gens. Donc,
Et ça peut nourrir les pistes de réflexion des prochaines personnes qui travailleront sur des expositions, de voir qu'il y a des bonnes pratiques et que c'est possible de le faire comme ça. Ouais. J'imagine qu'il y a aussi la phase de démontage est vraiment cruciale dans tous les projets culturels, savoir comment, d'anticiper toutes ces questions de qu'est-ce que ça va devenir, comment je vais stocker mes matières, comment je vais les rendre standards. Tu as beaucoup parlé de ça, donc j'imagine qu'il va s'agir d'enlever des traces de ce qu'on a pu faire, d'y avoir des histoires de droit aussi.
Bah ouais, c'est très compliqué, mais bah en fait la question elle est au démontage, mais il faudra qu'elle soit avant le montage en fait.
À la conception.
Au moment où moi je fais mes plans et je décide de comment je vais concevoir mon truc, il faut que je prévoie déjà qu'en fait je vais pas prendre un matériau qui est super technique, qui est irréemployable ou même irrecyclable parce que c'est trop aggloméré, parce qu'il y a trop de trucs toxiques dedans, c'est ce genre de choses. Après Oui, sur le montage, en fait, la manière dont on monte des décors, dont on monte des scénographies, c'est vraiment, ça peut complètement varier sur la destinée des matériaux. Et souvent, nous, on récupère des décors ou des éléments qui, en fait, ont été complètement collés, vissés, collés, cloués. C'est impossible de retravailler derrière. Mmh. Et donc, sensibiliser au fait que voilà, les vis, c'est cool, démonter, monter comme ça, essayer de concevoir quelque chose de modulaire qui, en fait, une fois que tu l'as démonté, redevient des planches, c'est pas sur des formats trop bizarres. Enfin, ça fonctionne. Et nous, c'est aussi un des enjeux qu'on porte parce qu'on travaille beaucoup avec les écoles du supérieur, donc les écoles d'art, les écoles d'architecture, de mode et tout ça, et on sensibilise les étudiants qui sont les pros de demain, qui sont les gens qui vont concevoir les décors qu'on va récupérer en fait dans quelques années. Donc essayer d'aller voir avec eux et de leur dire, bon, en fait, tu vois, si tu y penses avant, ça peut avoir tout un tas d'impacts positifs. Donc,
démarche de déco-conception, et j'ose espérer qu'ils ont aussi des cours d'éco-conception au programme qui permettent.
Pas partout, on me fait non du doigt. Non.
Malheureusement. Et de toute façon, la réserve des arts a aussi ce rôle d'accompagner, de former. Il me semble que vous faites de la formation pour les professionnels.
Ouais, bah, en fait, il y a tout un pan de notre activité qui fonctionne que si on sensibilise de plus en plus de professionnels. On propose tout un tas de trucs, tout un tas de formats, de sensibilisation auprès des écoles où justement on va leur expliquer tout ça. On organise des workshops où on les aide à concevoir leurs projets à partir des matériaux. On fait de la formation aussi sur l'entrepreneuriat culturel, comment on lance son projet, comment en fait on apprend aussi de très anciennes techniques de reprisage pour sauver un textile, sauver un tissu, un vêtement. Après, on fait aussi tout un tas d'ateliers, et notamment à la Casanova, on développe toute une activité comme ça à destination de notre quartier d'implantation, de nos bénéficiaires, autour de apprendre la menuiserie de réemploi, en fait comment on fait pour travailler avec des chutes, fabriquer des petits objets, s'initier au bricolage, enfin il y a tout un tas de trucs. Et en fait on va même aussi sensibiliser les entreprises, c'est-à-dire que on fait le démontage d'une expo, mais si vous voulez on vous accompagne sur le montage ou la conception, en fait on vous aide à sourcer vos matériaux chez nous, on vous aide à standardiser pour que votre expo elle rentre un peu plus dans les cases de ce qu'on attend.
Ouais. Et pour que vous puissiez intégrer ces bonnes pratiques systématiquement lors de vos prochaines expositions, prochaines activités.
Ouais. Mmh.
Tout à l'heure, durant la pause musicale, tu nous parlais de la programmation de la Casanova. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les événements à venir sur les prochains mois ?
Ouais. La Casanova, donc, je disais, c'est un peu un regroupement d'acteurs de l'économie sociale, solidaire, circulaire. On fait tout un tas de trucs. On dispose d'un très beau lieu, on a 3000 mètres carrés d'espace, et donc on a un peu envie que ce soit utilisé par d'autres personnes que nous. Donc on ouvre déjà un peu la programmation sur le mercredi. D'ailleurs, je fais un appel à s'il y a des personnes qui cherchent un local, un espace intérieur-extérieur pour mener leurs actions ou leurs ateliers, contactez-moi. C'est possible en tout cas. On a envie de construire cette programmation sur le mercredi. Et derrière, évidemment, on a envie aussi de filer un peu la métaphore du procès et poursuivre un petit peu ce bel engagement de l'inauguration et de se dire, en fait, on a laissé la culture en liberté au mois de juin. Maintenant, on va aller la retoquer un peu pour savoir, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, l'idée, c'est de poursuivre un peu sur ce format d'événement un peu théâtre, un peu fun, un petit peu plaidoyer, un petit peu réseautage. Voilà, on est en train de le construire et normalement, ce premier événement de travaux d'intérêt général sera au mois de décembre.
D'accord. Ok, et on peut s'attendre à une autre pièce de théâtre avec des structures alliées. Oh, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas trop.
Je ne sais pas. Franchement, tout n'est pas écrit encore. On essaiera de faire un format aussi chouette pour tout le monde, quoi.
D'accord. Ok. J'espère que ce ne sera pas un mercredi parce que nous, les mercredis, nous sommes à la radio.
Ce ne sera pas un mercredi.
D'accord. Mara me fait un signe pour me dire qu'il reste 5 minutes, effectivement. On va reprendre avec les bonnes habitudes. On a l'habitude de clôturer nos émissions avec la question récurrente, qui est de se projeter en 2030. Bon, plus ça va, plus 2030, c'est demain. Mais on demande à nos invités de se projeter en 2030 et d'imaginer à quoi ressemblerait Marseille qui a réussi sa transition écologique et sociale. Vaste question, si tu veux te mettre en condition, tu peux fermer les yeux et te projeter.
D'un point de vue, en tout cas, de la réserve, d'ici 2030, nous, on a accompagné toutes les structures culturelles du territoire, Marseille, mais même au-delà, du département, de la région. Aujourd'hui, il y a des boucles circulaires qui sont mises en place partout. Il y a des espaces de stockage, de mutualisation partout. Tout le monde est dans l'éco-conception. Les gens, En fait, en 2030, la réserve des arts n'existe plus parce que tout le secteur est formé, quoi. Et toute la récupération est orchestrée en interne. Et en fait, nous, notre outil, il n'existe plus parce qu'il n'y a plus besoin.
Moi, je pense qu'il y aura toujours besoin d'un intermédiaire pour récupérer, parce que c'est un service que vous offrez à ces structures. D'accord. Et donc ça, c'était pour la réserve des arts. Est-ce que tu as envie de nous partager comment serait Marseille, comment serait la Casanova en 2030?
Ah là là, mais on ne sera plus à la Casanova, oui, hélas. On sera dans cet espace qu'on ignore, dont on ignore le nom, le lieu. Nous, on réfléchit un petit peu à ce que cette question du foncier, ça nous tarabuste. Ça nous fatigue aussi un peu d'imaginer un déménagement tous les 2-3 ans, sachant qu'on ne fait que grandir dans le terme de local. Du coup, il va falloir penser à autre chose. On aime bien cette idée de penser des entrepôts complètement modulables, complètement sur roulette. Qui s'installe partout en fait, qui s'installe, qui se désinstalle en fait, échapper complètement au local. Enfin voilà, peut-être qu'on sera dans une espèce de vaisseau un peu mer avec des matériaux qui existeront par eux-mêmes. Je sais pas bien, mais je pense qu'on sera toujours là effectivement.
Ouais. Je pense aussi. 2030, c'est demain. Et bien c'est comme ça que nous allons conclure cette émission de rentrée. Un grand, grand, grand merci Jeanne pour cette émission hyper intéressante, enrichissante.
J'espère. Merci à vous, c'était un plaisir.
Merci Jeanne.
Et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre casa, il me semble.
Une autre casa, la casa des Massilia, Lucie Delmotte qui viendra témoigner sur son nouveau lieu, effectivement.
Et bien on vous dit à mercredi prochain, bonne soirée.
À mercredi prochain, Claire.
Bye bye.